Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Et merci à vous toutes et tous de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, donc à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain tout en musique et Bertrand Chamerois pour son écran de veille tout en événement historique. Notre invité culture, musique encore, le chanteur Patrick Fiori pour un nouvel album, un air de famille mais aussi un livre pour enfants et aussi une série, encore plein de choses. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, on va partir au Mexique à travers une très belle exposition présentée par Luce Bernard et puis on va soutenir les restaurateurs avec des plats à emporter présentés par Laurent Mariotte qui vient de se casser. Mais non, je plaisante. Il est parti avec les plats. Bonjour Eva Rock.
Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que vous racontez?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça s'appelle un teaser. C'est que j'en dis quoi? C'est vrai, Laurent Mariotte est parti. Mais non, c'est pas vrai. Venez, il sera là. Profitez-en.
D'accord.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe Vandel.
Ah, vous êtes là, Bertrand.
Oui. Voilà. Il n'est pas emporté, le Bertrand. Comme tous les jours, c'est l'heure de votre écran de veille. Qu'est-ce que vous avez regardé hier à la télé pour vous changer les idées?
Ah bah, vous me connaissez, malgré le contexte, je m'efforce comme Laurie de garder la positive attitude.
Oh,
c'est donc pour cette raison qu'hier j'ai suivi la conférence de presse de Jean Castex sur les chaînes Info. Le Premier ministre qui a annoncé la mise en place du couvre-feu dans 38 nouveaux départements, mais ce n'est pas tout.
Je vous le dis donc très clairement, les semaines qui viennent seront dures.
Ah, sacrée année 2020,
non, mais...
c'est vraiment une... Une grosse année en mousse qui s'étire et file le cafard. Elle est pas franchement douce, douce. Vivement qu'on en rigole au bar. Oui, du Patrick Sébastien, quand on n'a pas le moral, ça marche à tous les coups. Et on va en avoir besoin de notre patoche, car ce n'était pas la seule annonce de Jean Castex.
Sachez que les mesures mises en place seront réévaluées dans une semaine. Des mesures beaucoup plus dures seront prises si l'épidémie n'est pas jugulée.
Vous sentez cette odeur? Mais si, ah si, ça sent le reconfinement.
Ah oui,
vous savez, bah c'est toujours le même problème. J'en parlais avec Mathieu Charrier tout à l'heure. Quand le premier volet attire du monde, ils se sentent obligés de nous pondre une suite. Mais c'est rarement aussi bien que le premier. Autant le premier confinement, c'était au printemps, il faisait beau, on avait de l'espoir, on s'était mis au yoga, on faisait du pain maison, des loisirs créatifs. Mais là, le confinement, la suite, j'ai peur que ça fasse un peu le même effet que les bronzes étroits. Enfin bon, bref. Comme à chaque prise de parole du Premier ministre, les chaînes info ont invité médecins, épidémiologistes, éditorialistes, maîtres chiens, garagistes et danseurs étoiles à réagir et à commenter les annonces de Jean Castex. Et au milieu de ce flux incessant de commentaires, on ne l'avait pas vu venir, mais elle est arrivée, la perle rare, l'invité qui ne parle pas pour ne rien dire. Il s'appelle Arnaud Chiche, il est médecin anesthésiste réanimateur et il était sur France Info.
Comment est-ce que vous réagissez à ces nouvelles mesures de restriction?
Je sais pas quoi vous dire en fait.
Il ne sait pas quoi dire et il le dit, ça fait du bien. Résultat à la question, pensez-vous qu'il fallait mettre toute la France sous couvre-feu? Voici sa réponse.
Moi ce que je sais faire c'est de la médecine. Donc je ne suis pas capable de commenter plus que ça les décisions qui sont prises.
Bah, les autres non plus, mais ça ne les empêche pas de le faire. Hein. Quoi qu'il en soit, nous avons vécu un événement historique. Hier, pour la première fois de l'histoire, un invité de chaîne info n'est pas entré dans le jeu du commentaire à tout prix sur des sujets qu'il ne maîtrise pas forcément. On se souviendra tous de ce qu'on faisait ce 22 octobre 2020. Allez, courage! Dans 70 jours, on change d'année. Et à ce propos, je propose que le 31 décembre à minuit, on se souhaite simplement bonne chance ou bonne nuit.
Ouais.
On va pas risquer de refaire la même connerie que l'an dernier. Bon week-end.
Vous avez tellement raison. C'était la trompette de Jean Castex. C'est Bertrand Chamerois, merci. Eva,
oui.
Avec vous, on va regarder du côté des programmes du week-end, parce qu'on est le week-end. C'est quoi votre zapping du lendemain?
Alors, je vais pas chanter, mais je vais vous offrir un autre style de musique un peu plus réussi que la vôtre. Pardon Bertrand, je suis désolée.
Oh, dis donc, comment ça taille?
Oui, mais parce que ce zapping est vraiment une belle histoire musicale. Après cette semaine éprouvante en termes d'actualité, je vous offre quelques minutes de douceur avec pour commencer le nouveau film d'animation Netflix, idéal en cette période de vacances, Voyage vers la Lune, une aventure musicale et spatiale qui raconte le voyage improbable d'une jeune fille, elle s'appelle Fei Fei, elle veut aller vers la Lune à la rencontre de la déesse Changa.
J'adore qu'on me raconte la déesse de la Lune.
Encore ?
Raconte-moi, maman.
Une femme très belle et un homme très séduisant était amoureux. Mais elle but accidentellement une potion magique et flotta au loin, laissant l'amour de sa vie derrière elle. Maintenant, elle l'attend sur la lune.
M'envoler, Changa, est-ce que tu veux de moi? M'envoler.
Vous avez craqué avec Libéré, Délivré. C'est beau,
ça fait du bien d'entendre des choses comme
alors,
ça.
Alors, en revanche, avertissement pour les parents, si vous n'en pouvez plus de Libéré, Délivré, là, vous voyez ce que je veux dire, je crains que vos enfants reviennent vous casser les oreilles avec les chansons super aiguës de ce dessin animé. Mais quand même, je vous le recommande parce que ce film est surtout un condensé de poésie qui évoque les valeurs familiales, les valeurs d'amitié, qui loue l'audace aussi. Une petite merveille qui est coproduite par Netflix et Pearl Studio, qui est une société américano-chinoise. Autre balade musicale. C'est demain soir, samedi, sur France 3, grâce à un moment que j'attends toujours avec impatience.
Ah oui.
Je suis peut-être la seule, mais les Victoires du Jazz. Pas de cérémonie pompeuse, mais des lives autour d'une piscine. La piscine Molitor à Paris, c'est sublimissime comme décor. Des mini-concerts entrecoupés d'interviews pour mieux connaître ces musiciennes et musiciens français talentueux, comme le saxophoniste Christophe Panzani, qui raconte à quel point cet instrument est exigeant physiquement.
Les instruments avant... On a souvent des problèmes de dents ou des problèmes de muscles du visage et des dents tordues, des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes de nerfs. Du coup, moi, j'ai dû changer ma manière de souffler, de tenir mon bec.
Et puis, j'ai eu un immense coup de cœur pour une pianiste et chanteuse française. Elle s'appelle Macha Garibian et elle mérite vraiment notre attention.
Mon instrument, je le connais. On a une relation comme avec tout instrument. Des fois, je l'adore et des fois, j'ai envie de le balancer par la fenêtre. Enfin, là, je peux pas, il est un peu lourd, il est un peu gros. Mais quand j'étais petite, je mettais des coups de pied dedans.
Tous les deux ont remporté la victoire révélation parce que oui, il y a des ex-échos dans les victoires du jazz et c'est le cas dans plusieurs catégories, mais parce que le jazz est avant tout une musique de partage. Je vous récapitule, Voyage vers la Lune, c'est sur Netflix quand vous voulez. Les victoires du jazz, c'est samedi à 22h25 sur France 3 ou sur le site France.tv quand vous voulez à partir de dimanche.
Oh, c'est beau.
Merci beaucoup, Eva Rock.
Merci Bertrand, ça fait du bien, un peu de douceur.
Ah oui. Et je le note, pas de cérémonie pompeuse et on félicite le saxophoniste. Comment il s'appelle, Bertrand Chamerois?
Il s'appelle Christophe Panzani.
Et bien au moins, vous avez retenu son nom.
Du jazz, oui, mais ouais. Du Panzani.
Oh non, Bertrand,
tout le monde y pensait, fallait le faire. Non, maman, assumons.
C'était Bertrand Chamerois dans ses œuvres. Merci Eva Rock. Bertrand, je vous félicite pas. Nous, on continue Culture Média. On sera avec le chanteur Patrick Fiori.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Patrick Fiori.
Bonjour.
Chanteur populaire au sens premier et noble du terme, on vous avait découvert dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Vous continuez à vendre des disques. Non mais c'est important de le dire, puisque c'est un marché qui tombe et puis en général la notoriété va en déclinant. Vos deux derniers albums sont vendus à 100 000 et 300 000 exemplaires, ce qui est un exploit autant de la musique gratos sur internet. Et votre actualité, c'est un nouvel album, le 11e, un air de famille. Il y aura aussi un livre pour enfants, la 6e saison de The Voice Kids, on va en parler. Mais d'abord, cet album, un air de famille, sur la pochette, il y a vous et un petit garçon, c'est vous aussi. C'est quoi l'idée de cet album? Est-ce qu'il y avait un fil directeur?
Mais il y a toujours, ouais, de toute façon, dans tous mes albums, il y a un truc qui se tient un peu comme ça déjà, sur scène, pendant la tournée. J'ai toujours des petits intermèdes, genre de petits interludes, où je parle un petit peu de ce qui m'est arrivé dans la vie, quoi, parce que je trouve que de chanter des chansons, c'est bien, mais bon, c'est pas suffisant. Les gens ont envie d'en savoir un petit peu plus, c'est ce que je peux comprendre. Donc voilà, je parlais souvent de la famille, parce que j'ai une famille un peu agitée, on va dire.
Ah bon?
Avec un papa déménageur, une maman qui faisait les ménages, bref. Ils sont disputés pendant 50 ans, mais j'ai compris qu'ils s'aimaient en fait. Et voilà, donc du coup, je parlais de ça. Et par la force des choses, on va dire, avant le confinement, avant la première chanson sous mes doigts, m'est venu ce titre d'album, Un air de famille. Et en fait, je regardais les gens tout simplement autour de moi. Je regardais ma famille avec ses secrets, avec ses volcans, avec son cousin boxeur, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et je me suis dit vraiment, on a vraiment un air de famille, quoi. Donc ma famille n'est pas différente de celle des autres, tout simplement.
C'est vous qui avez fait les musiques.
Oui.
Mais alors ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas vous qui signez les textes.
Ben, j'en signe de temps en temps. Ouais. Mais de temps en temps, j'en signe pas.
C'est-à-dire non, mais que... si on a des choses à raconter, on signe soi-même. Je vous le reproche pas, mais on a l'impression qu'on signe soi-même le texte.
Bien sûr, mais je pense que parfois c'est intéressant d'avoir la vision des autres. C'est-à-dire qu'un air de famille, pour moi, c'est un partage. C'est des photos qui s'accumulent, qui superposent. Donc quand je fais la musique, évidemment, avec les auteurs avec lesquels je travaille. je leur parle, je leur dis exactement ce que je suis en train de vous dire. Et du coup, c'est la photo qui vient se rajouter. Quand on a un air de famille, on est dans le partage, donc on laisse venir les autres à table. Voilà.
On va entendre tout à l'heure le titre J'y vais, c'est en duo avec Florent Pagny. Et alors, je suis tombé des nues en préparant l'entretien, c'est votre premier duo.
Mais oui,
mais
c'est
vous connaissez depuis 5000 ans tous les deux, vous n'aviez jamais chanté ensemble. Comment ça s'est fait?
Lui, c'était un Tyrannosaure Rex.
Vous connaissez depuis une paire d'années, comme on dit.
Non, mais moi j'ai toujours été admirateur de ce garçon. Quoi.
Mais pourquoi ça s'est jamais fait?
Ça s'est jamais fait parce qu'il avait autre chose à faire, peut-être, moi aussi. Et puis moi, je lui ai fait passer l'info par les copains, quoi, par la bande, que vraiment j'avais envie de chanter avec lui. Pas envie pour. Il n'y a pas de compète, là. C'est vraiment, c'est le cœur. C'est comme quand j'ai souhaité chanter avec Goldman, ou avec Zucchero, ou avec Johnny, ou avec Cabrel, ou bref. Et Florent, pour moi, c'est la plus grande voix de France. Voilà, c'est réglé, je vous le dis. Et je me disais, putain, j'aimerais trop un jour chanter avec ce garçon-là, parce que je l'apprécie, et je le trouve audacieux en plus. Ouais. Et bon, la réussite lui sourit parfois, souvent. Et du coup, je l'ai appelé, j'ai mis 10 ans, en fait. Voilà, j'ai mis 10 ans et à faire une chanson, et puis je l'ai appelé, là, pendant le confinement. Et j'ai dit, écoute, Florent, je crois que je tiens un truc. Et il me dit, ah bon? J'ai dit, ouais, j'ai une chanson, écoute, je te l'envoie, dis-moi oui, merde, mais dis-moi un truc. Voilà, il me dit, non, mais en principe, je prends 2-3 jours pour réfléchir. Et ce qui était trop mignon, c'est que je lui envoie la chanson avec une voix yaourt, quoi, que j'avais fait à la maison. Il me rappelle 3 minutes après, il me fait, à 1000%, j'y vais. Voilà.
La voix yaourt, c'est-à-dire du faux texte, on fait.
Oui, 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 voilà, c'est ça.
Il y a une chanson dont les paroles et la musique ont été écrites par Jean-Jacques Goldman. La chanson s'appelle Nous ne le savions pas. Sur l'album, il y a une illustration parce qu'il y a un petit livret dans l'album. C'est un masque anti-Covid. On va en écouter quelques mesures.
Je te chante un monde tout défaité. Noce, anniversaire, adieu, périlleux. Nos élans, nos étreintes embarrassées. Danse à distance et soirée couvre-feu. Éclat de rire étouffé. Je pleure nos rendez-vous mélangés. Stade et théâtre, arena, cinéma. Nous avons tous une dernière fois. Mais nous ne le savions pas.
C'est incroyable la prémonition. Les stades fermés, les salles de théâtre, les cinémas fermés. Et il dit « Je te chante un monde tout défaité ». C'est un néologisme, c'est-à-dire sans fête. Noce, anniversaire, adieu périlleux, nos élans, nos étreintes embarrassées, dans sa distance et soirée couvre-feu. Goldman a prédit le couvre-feu, alors qu'on était au confinement. Hier, on ne parlait pas du tout de couvre-feu.
Goldman a vu la DSL arriver, donc il est parti avant que ça parte dans tous les sens.
Ça date de quand l'enregistrement de cet album, cette chanson et d'autres?
Cette chanson, peut-être 2 mois.
Ouais.
Ouais. Il a cette longueur d'avance qui le caractérise, qui lui ressemble. Il a ce truc, cet instinct. On le sait, hein, tous les gens le savent, mais même à chaque fois, quand il est surprenant, quoi. À chaque fois, c'est pareil. Quand j'ai ce texte qui est arrivé, j'en parlais hier à un copain. On a un texte qui apparaît, ok, on le chante, tout ça, c'est super. Mais quand celui-là, il m'est arrivé devant les yeux, j'étais chez Patrick Ampar-Soumian, le garçon avec qui je réalise, je suis tombé. J'ai chanté, je suis tombé.
Vous êtes tombé comment? Dans le studio?
Non, ouais, je suis tombé parce que. Ouais,
non, mais tombé littéralement, boum!
Non, pas littéralement, mais je suis tombé. Bon. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement. C'est dans les tripes, quoi. C'est là qu'il va chercher. Et avec élégance, quoi. Avec élégance. C'est énorme, il est énorme.
Jean-Jacques Goldman, Patrick Fiori. Et Hélène Manarino, ça m'énerve ce masque pour prononcer les M.
Sûr. Ouais,
sur les M.
M,
c'est pas facile. Ouais. Hélène Manarino qui arrive. On marque une pause, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Fiori, vous parlez beaucoup de vous dans cet album, Patrick Fiori, un air de famille.
Ouais, ça m'a saillé enfin, quoi.
Il y a quelqu'un que je voudrais vous présenter et qui va parler uniquement de vous. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick Fiori. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, pas tout. L'un de vos plus beaux cadeaux enfant. C'était une grue. Et c'était pour Noël.
Mais Patou, déjà, Patou, personne ne m'appelle Patou.
C'est famille, si.
Ah oui, c'est vraiment. C'est entre le meuble en pain et la cuisine qu'on m'appelle Patou.
Je me situe là, à peu près. Voilà.
Je vous avais prévenu. Je vous ai prévenu. C'est Hélène Manarino.
Alors, cette grue, vous n'en reveniez pas. Alors, montons en haut, justement, et contemplons tout simplement votre vie. Bruit d'aspirateur. Puisqu'on va commencer par le ménage. Voilà, au moins ce sera tout propre. Vous êtes un vrai homme d'intérieur.
Ça me détend.
Voilà, et vous avez une passion pour l'aspirateur.
C'est vrai? Ah oui, je crois que je les ai tous.
Vous en avez plusieurs.
Venez chez moi. Non mais en plus, il y a les copains dans les magasins, enfin ceux qui, voilà, les marques là, ils me disent, putain, viens vite, on a reçu le dernier 854.
Et vous donnez des conseils parfois aux autres artistes. Oui. Vous êtes incollable sur l'électroménager, les magasins qui vont avec.
C'est drôle.
Vous aimez ranger, vous occupez du quotidien, votre valise est toujours impeccable.
Oui.
Vous faites même votre lit en partant de votre chambre d'hôtel.
Non, oui. Première fois que j'entends une anecdote pareille.
Non, mais oui. Je refais tout parce que en fait, ma maman faisait des ménages.
Exactement.
Voilà. Et du tout, je trouvais ça pas normal quand elle me disait à la sortie de l'école, tu viens rejoindre maman. Je suis au 17e chez madame, je sais pas quoi. Et donc j'arrivais, je voyais la maison tout en bordel. Je disais, ah, mais non, mais quand même, c'est pas bien. Et donc ma mère me disait, il faut refaire le lit quand même. Et donc du coup, je refais le lit de l'hôtel, oui, tout le temps.
Alors Patrick Fiori, en regardant votre vie avec un peu de hauteur, on peut constater également que vous étiez un enfant presque modèle. Jouer aux billes, regarder des dessins animés, alors ça allait de Goldorak à Candy. Et puis, analyser votre professeur...
La tête qu'il a fait sur Candy.
Monsieur... Analyser votre professeur, monsieur Zawi, qui jetait des boulettes de papier
mais
sur les élèves.
Mais personne le sait.
Eh bien, moi, je le sais.
Mais non, mais voilà. Alors, vous êtes rentré dans l'école, vous avez dormi chez les gens.
C'est monsieur Zawi qui nous a appelé.
J'ai un rythme intense. Votre plus grosse bêtise, manger une barre chocolatée dans un supermarché. Vous étiez servi dans les rayons. Alors, l'homme de sécurité vous avait interpellé, mais quand même. Même quand vous séchiez les cours pour aller enregistrer en studio, tout le monde trouvait ça normal. Alors, vos plus beaux souvenirs à regarder peuvent être allez, vos amours, les tout premiers au camping avec votre frère, la guitare, séduire. Peut-être l'une sur deux vos chansons préférées.
J'adore.
C'est une de vos chansons préférées.
Non, mais oui, j'adore.
Vous la chantez souvent.
Mais en plus, la vie a fait que j'ai rencontré l'auteur qui est devenu un ami, Jean-Michel Berriat, qui malheureusement est décédé, mais avec qui j'ai écrit une chanson qui s'appelle Sans bruit. Bon, bref, voilà, il s'est passé, c'est bizarre.
Il s'est passé des choses avec ça.
Des choses. Hélène.
À ceux qui vous ont emmené aussi tout là-haut, ce sont vos parents. Pendant le confinement, ils étaient chez vous. Vous alliez faire les courses pour la famille. Charlotte sur la tête, combinaison. Oui. Oui. Vous étiez le seul à sortir, très attaché à la cuisine de votre maman, les feuilles de vigne arménienne ou les pâtes aux langoustes de votre tante aussi, ou encore parfois manger de la pâte à tartiner la nuit quand vous n'arrivez pas à dormir
mais ça,
sur votre canapé.
Personne ne sait que je bouffe du Nutella la nuit.
Et vous dites souvent, je fais comme les meufs, mais on ne fait pas tout ça, je vous le dis. Bon, ça arrive, mais bon.
Avec un plaid sur le canapé
En regardant Bridget Jones. Non.
J'ai un doute.
Vous faites ça, Hélène?
Oui. Tant qu'on ne vous parle pas de petits pois, tout va bien.
Voilà.
Alors Patrick Fiori, il faut le dire, vous avez toujours fait passer la vie des autres avant la vôtre. C'est peut-être pour ça que vous détestez fêter votre anniversaire, même qu'on vous le souhaite. Vous aimez être entouré, surtout avant un concert. Vous êtes capable de stopper un verre qui va tomber alors que vous êtes à l'autre bout de la table. Empêcher une mèche de cheveux d'une de vos amies de brûler à cause d'une bougie. Vous êtes en alerte sur tout,
Je suis dans le rouge.
Et oui, le bonheur des autres fait tout simplement le vôtre. Comme vous avez récemment déclaré, si je n'avais pas été chanteur, j'aurais été nounou.
C'est la vérité.
Alors vous êtes aussi capable parfois d'oublier votre ingénieur du son sur une aire d'autoroute pendant une tournée.
Non.
Et oui.
Volontairement ou pas?
Non. Mais non, mais ce con, il est allé acheter des lunettes à 2h du matin. Des lunettes de soleil.
Et le pire, c'est que c'est le tourbus de la grande Sophie qui est passé juste après qui l'a récupéré en artiste.
Les arbres étaient en train de l'envahir et puis la grande Sophie est passée et l'a récupéré.
C'est votre côté gaffeur, oui, comme ce jour où vous faisiez un concert pour une marque de montre, une marque dont le nom ressemblait à une marque de champagne. Et quand le patron est venu vous saluer, vous lui avez dit « j'adore votre champagne ».
Ça, personne ne peut le savoir.
Je suis trahi, c'est une honte.
Il y a quelqu'un qui vous trahit.
Mais c'est passé, Patrick Fiori, on ne peut pas vous en vouloir. Cette hauteur que vous prenez, elle est là aussi grâce à votre public, fidèle depuis toujours, qui vous gâte de paquets de marshmallows. Un fan a même été capable de vous offrir un micro, un vrai, lors d'un concert en Russie. Alors ne descendez jamais de votre grue parce que même si vous êtes là-haut, vous avez toujours su garder les pieds sur terre.
Vous savez quoi ? C'est exceptionnel parce qu'il y a un truc très révélateur et que je comprends aujourd'hui. C'est grâce à vous et je plaisante pas. On parle de cette grue qui a été un cadeau formidable pour moi et vous parlez de hauteur depuis tout à l'heure. Je comprends pourquoi je suis un bâtisseur maintenant. Voilà, je viens de comprendre pourquoi. Parce que le premier cadeau qui m'a marqué dans ma vie, ça a été cette grue. Et donc du coup, la construction finalement, dans tous les sens du terme, est très importante pour moi. Et quand je vous dis que je suis un bâtisseur, je suis vraiment un bâtisseur dans tout. Voilà, dans ma musique, mais aussi dans ma maison, je suis toujours en train en permanence de bouger les choses. Donc je viens de comprendre quelque chose à 51 ans, je vous remercie beaucoup.
Avec grand plaisir.
Et cette gentillesse que vous avez dans les yeux est assez extraordinaire. Voilà, je voulais juste vous le dire. Celle du cœur, on la comprend, mais celle qui est dans les yeux est magnifique.
Et Patrick Fiori, pour vous être agréable de ma part, merci beaucoup Hélène Manarino. Pendant qu'on marque une pause, je vais nettoyer le sol de ce studio. Vous inquiétez pas.
Dans un instant, notre première indispensable est Louise Bernard. Elle va nous emmener au Mexique le temps d'une exposition.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
en compagnie de Patrick Fiori qui vient de se remettre de ses émotions. Un nouvel album s'appelle Un air de famille, c'est le 11e. Est annoncé cet hiver une tournée des petites salles, mais également une tournée des cathédrales. Vous confirmez, ça sera la même tournée. Qu'est-ce que vous allez faire?
Non, c'est pas la même tournée.
Alors, allez-y.
Il y a une tournée des cathédrales qui s'annonce là pour la fin de l'année.
Un peu comme ce qu'avait fait Laurent Voulzy.
Mais carrément comme avait fait Laurent Voulzy. Je suis allé le voir dans une cathédrale et j'ai vu ce qu'il faisait et c'est merveilleux, quoi. Bon, en plus, moi, c'est familier pour moi. Mm-hmm. Enfin, les églises, c'est pas comme si je m'improvisais demain aller chanter dans les églises. J'ai fait ça toute ma vie.
Mais là, on parle de musique, c'est une orchestration différente. Il y a pas de batterie.
Il faut
réarranger les.
Ça y est, on est en train de tout réarranger les morceaux et puis après on partira en tournée électrique, je dirais, dans des salles normales, même si je trouve que les églises c'est fabuleux, à partir du mois de mai pour 35 concerts. Voilà.
Ça va du 6 mai à La Ciotat, il y a Lyon, Aix-en-Provence, la Grande Motte, Lille, Marseille, Casino d'Yvonne, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles, l'Olympia à Paris et puis ensuite vous ferez les grandes villes. Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour, quel plaisir. On parlait d'exposition et vous nous conseillez une expo qui s'appelle Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique. J'ai vu, c'est annoncé sur le magnifique musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Expo.
Exactement.
Que je n'ai pas vue en revanche et dont vous dites qu'elle fait voyager.
Oui, parce que c'est d'abord un voyage au sens géographique, hein, on se téléporte au Mexique et c'est un voyage dans le temps. Retour entre les années 1600 et 400. Avant Jésus-Christ, et oui, c'est une période à laquelle se serait développée la civilisation des Olmecs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Olmecs.
J'ignorais même leur existence avant d'avoir vu le titre. Donc
exactement.
Je savais pas ce qu'étaient
en
les
fait,
Olmecs.
On connaît souvent les Mayas ou les Aztèques, mais pas les Olmecs. Et pourtant, c'est une des plus anciennes civilisations d'Amérique centrale. Une des plus anciennes, mais dont on a compris l'existence tardivement grâce à la découverte de statuettes et de sculptures.
Qu'est-ce que vous appelez tardivement?
Mais en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous le disais. Donc on parle d'une civilisation qui s'est développée 1600 avant Jésus-Christ.
Ah ouais.
Mais la première statue découverte, c'était en 1860 après Jésus-Christ, et pas n'importe laquelle, hein, une tête colossale, 1,50 m de haut, pareil de large, de profondeur, et un petit poids de 8 tonnes seulement. Imaginez la tête du fermier qui tombait dessus en creusant la terre, et la sculpture ne ressemblait à aucune autre de civilisation déjà connue.
Cette tête va surprendre totalement, les gens ne savent pas quoi faire avec ce truc, et ça ne colle pas du tout à aucune sculpture connue dans les autres régions. Très rapidement, on va dire que ça doit être une culture qui vient de la région de Olmán. Olmán était le terme que les Aztèques donnaient à cette région, c'est-à-dire la région du caoutchouc. Donc, si tu venais de la région de Olmán, tu étais un Olmec, comme les gens qui venaient de la région de Aztlán étaient des Aztèques. Donc, le mot Olmec va être, en fait, mis sur cette culture. Donc, ce sont les gens du caoutchouc, d'une certaine façon.
Voilà, c'était Steve Bourget, archéologue québécois, responsable des collections Amériques au musée. Alors pour l'instant, il y a 17 têtes colossales qui ont été découvertes. Certaines pèsent jusqu'à 40 tonnes. Elles peuvent mesurer 4 mètres de haut. Elles ne sont pas toutes dans l'exposition. Vous imaginez bien les problèmes de transport, de logistique. Mais il y en a une qui vous accueille dès l'entrée avec ses 5 tonnes quand même. Impressionnante et fascinante.
J'aurais bien aimé être là quand ils l'ont déposée. Le reste de l'expo, c'est des plus petits formats.
Évidemment, mais pas moins intéressant déjà par la beauté de certaines œuvres. Pour l'immense majorité, elles n'étaient jamais sorties du Mexique. Et une fois qu'elles y retourneront, elles ne sont pas prêtes de revenir parce que c'est vraiment une logistique très lourde et très coûteuse. Dans l'exposition, il y a des centaines de stèles et de statues exposées. 20 tonnes de pierres en tout. Hein. Toutes ces recherches archéologiques ont permis au fur et à mesure de comprendre le fonctionnement de cette civilisation. En fait, c'est une civilisation très avancée qui aurait inventé pour les Amériques le caoutchouc, on l'entendait, le calendrier, le jeu de balle, les pyramides et même une écriture, mais dont on n'a pas encore percé les secrets, on ne sait pas la déchiffrer pour l'instant.
Magnifique.
Et c'est une civilisation qui aurait eu une grande influence sur toute la région. D'ailleurs, ces fameuses têtes colossales dont je vous parlais, c'est avant tout la démonstration d'un pouvoir.
On ne fait pas une tête de 4 tonnes pour se représenter parce qu'on veut un portrait chez soi. Hein? On le fait parce qu'on veut vraiment transmettre une information qui est presque à certains points subliminale. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit une sculpture de 5 tonnes de son dirigeant sur un site et qui sait pertinemment que cette pierre ne peut provenir que d'un site, d'une montagne qui se situe à 100 km de là, c'est du pouvoir. Ça veut dire que cet individu a été capable de coopter des gens pour transporter sur une distance de dingue un truc, un machin qui devait peser 7-8 tonnes, des fois jusqu'à 30 tonnes, et le transporter jusque-là, le sculpter. Donc ça vous démontre en même temps que cet individu avait un pouvoir très fort.
Voilà, passionnante exposition, les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique. C'est à voir jusqu'au 25 juillet 2021, vous avez le temps, au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris.
Patrick Fiori.
Moi, j'adore quand il y a des pages qui se rajoutent à l'histoire, quoi. Je trouve ça magique. C'est magnifique parce que ça nous donne des informations en plus, et puis ça nous donne aussi conscience qu'il y a il se passe des choses assez extraordinaires et formidables. Et moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. En tout cas, cette information me plaît beaucoup et cette recherche est fabuleuse, quoi.
Et moi, ça me fascine complètement d'imaginer 30 tonnes transportées sur des kilomètres.
C'est complètement fascinant. Et même les plus petits formats, en fait, vous verrez, c'est en jade, etc. C'est vraiment fascinant de voir la conservation, l'état de conservation, ouais. D'imaginer de quand ça date. Voilà. Et évidemment, c'est une expo Europe 1, puisque c'est une super expo.
Eh ben on ira.
Comment on ira avec Florent. Merci beaucoup, Louise Bernard. À la semaine prochaine. Dans un instant, vous restez avec nous. Patrick Fiori, on va vous entendre. D'abord, on va parler de musique avec Laurent Mariotte.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel.
On peut vous retrouver tous les samedis à la table des bons vivants. C'est sur oui. Europe de 11h à midi et demi. Mais là, aujourd'hui, vous n'avez pas donné des recettes, mais une invitation au restaurant. Et ça tombe très bien parce que Patrick Fiori, s'il cuisine aussi bien que sa mémé, ça doit être quelque chose.
Oui, et il aime aller au restaurant, je le sais en plus. Oui. Donc non, mais il faut soutenir nos restaurateurs. C'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de s'adapter, de résister, de continuer à distribuer du bonheur à table depuis le début de la crise sanitaire. Et à propos de crise, ils savent de quoi on parle parce que 17% des restaurants ont déjà fermé. On annonce 30% d'ici la fin de l'année. Et ce qu'on dit entre restaurateurs, c'est que ce sera pire que ça. Voilà.
Les restaurateurs donc se mobilisent, Laurent. Démonstration avec leurs initiatives, car il y a des initiatives.
Ben oui, ils sont obligés de faire le coup de feu avant le couvre-feu maintenant, le soir. Donc obligés de changer les horaires. On mange à l'heure anglaise, hein, comme les touristes américains dans nos villes. On mange en fin d'après-midi. Enfin, ils nous encouragent à ça. C'est vrai que c'est bien pour les soutenir aussi de changer nos habitudes, peut-être de manger un petit peu plus tôt le midi pour pouvoir aller manger chez eux le soir. Je pense au restaurant Slogan à Rouen, qui fait une formule métro, boulot, resto. Hein, un petit onglet à l'échalote à 19h, c'est pas mal quand même.
C'est mal. Il y a le métro à Rouen.
Oui, il y a le métro. Bah oui,
j'ignorais. Non, mais je pensais que ça aurait pu être de l'humour. Beaucoup de restaurateurs sont mis à la vente à emporter avec ce qu'on appelle le click and collect. Alors, on commande chez soi et on va chercher sur place.
Exactement. Alors ça, c'était développé pendant le confinement. Beaucoup le remettent en place. C'est la réservation d'un repas, comme vous dites, à emporter en ligne, sans besoin d'appeler. On le récupère à une heure fixe. Alors d'autres n'ont pas pu monter ce genre d'interface. Donc il y a toujours la bonne vieille méthode du coup de téléphone au restaurant à côté de chez soi pour commander à manger. Mais voilà, là aussi, il faut la jouer locale et il faut commander au restaurant à côté de chez soi quand on veut changer de l'ordinaire, comme on dit.
Mais évidemment, et puis comme ils vous connaissent, ils vous passent les plats parce que les restaurateurs, souvent, ils ont peur qu'on se barre avec l'argenterie. Mais là, on les connaît, donc on va revenir. Alors, c'est aussi l'occasion de resto de manger des plats qu'on ne fait pas à la maison.
Oui.
Des plats techniques, des plats longs à cuisiner. Quelques idées de plats à emporter en France.
Un petit cassoulet, un beau cassoulet d'ailleurs, à Toulouse par exemple. Je pense au Bibent de Christian Constant, qui est un chef qu'on ne présente plus. Hein. Il nous fait un cassoulet emporté ou livré, 34€ pour deux.
Ah, disons, ça va, ça fait 17€ le cassoulet.
C'est raisonnable, tout ce que je vous dis est raisonable. Hein. Champion du monde du cassoulet 2019, le cassoulet toulousain par excellence. Vous savez ce qu'il y a dedans, Patrick, dans le cassoulet toulousain?
Je pense savoir, mais je vous écoute.
Ouais. Alors, des haricots tarbés, de la poitrine de cochon, de la couenne de porc, du saucisson,
c'est tellement mieux dit.
Cuisse de canard, épaule d'agneau et saucisse de Toulouse. On mélange les viandes en fait, hein, tandis qu'à Castelnaudary, il n'y a que du porc, ou à Carcassonne, on rajoute du gigot de mouton. Il y a une espèce de petite guéguerre entre les trois comme ça, mais un petit cassoulet de Toulouse ce week-end, ça remet sur le cheval, sur le vélo.
Et dans la capitale de la gastronomie, à Lyon.
Eh bien oui, on peut faire des quenelles de brochet sauce Mantua par exemple. Ça c'est délicieux. Il y a Joseph Viola chez Daniel et Denise qui fait ça. La sauce Mantua, c'est vrai que c'est technique un petit peu à faire, hein. C'est un dérivé.
Je connais bien.
Vous connaissez la sauce Nantua?
Non, mais je connais bien parce que je connais bien Nantua. Déjà, je connais bien la région, donc tout Lyon, les restos, c'est bon.
Nantua, c'est dans l'Ain, hein, c'est ça. Hein.
Oui, avec des écrevisses, oui.
Ouais, non, mais je connais pas. Je connais vraiment. Et puis vraiment, on mange. Mais alors, on mange bien partout en France, mais Lyon, c'est quand même rock'n'roll.
Ah bah, capitale de la gastronomie. Donc c'est vrai que la sauce Nantua, je disais, c'est un dérivé de béchamel additionné de fumée de beurre d'écrevisse. C'est complexe à réaliser à la maison, donc quand on habite dans le coin, on peut en commander. Il y a le Café du Soleil aussi à Lyon qui livre, par exemple, aussi 18€ les 5 quenelles en boîte avec la sauce. Voilà.
Et puis Lille qui est sous couvre-feu depuis le début de la mesure. Est-ce que vous avez une adresse à Lille?
Oui, le Club Marot.
C'est bien tombé.
Dans le Vieux Lille, le Club Marot avec une tarte au maroilles, hein, la fameuse tarte au maroilles qui est le fromage à croûte lavée locale. Ça, c'est un restaurant, le Club Marot, qui dépoussière la cuisine du terroir, qui propose cette tarte avec une vraie pâte briochée. Donc là encore, c'est un petit peu technique à la maison de faire une pâte briochée. Donc voilà, pour les Lillois, pensez 10€ la tarte pour 4-6 personnes au Club Marot. Marot.
Et puis on va finir, je pose la question, mais je sais que vous avez la réponse, dans la ville de naissance de Patrick Fiori, Marseille, une adresse pour manger, pour aller choper, emporter une bonne bouillabaisse.
Ah ben on va demander à Patrick, il connaît probablement.
Certainement, déjà je crois que c'est vers le Vallon des Orfres, je pense que si on veut trouver une bouillabaisse c'est vers là-bas, et je crois qu'il y a...
Il y a l'hôtel Rulle effectivement,
oui,
pas loin.
Rue, ouais, ouais.
Oui, voilà.
Et voilà,
ben, c'est, mais chez Michel sinon.
Chez Michel sinon, où je crois qu'il y a aussi... il y a un restaurant qui est en bas, là, je me souviens plus du nom, l'Écrevisse ou un truc comme ça.
L'Épuisette.
Voilà, pardon,
non, c'est Laurent Mariotte qui donne à Fiori des adresses à Marseille.
Oui, mais c'est très très bien, l'Épuisette. Super, oui, chef cuisinier, ouais, absolument. Chef. Voilà, mais il y a Michel rue des Catalans,
bien sûr aussi.
Avec des poissons pêchés évidemment chaque jour. Poisson de roche hein, pour la, ah soupe, ouais, ben oui. La soupe. T'as le masque, c'est dur. Hein. Ouais. Poisson de roche pour la soupe, avec de la rascasse, du grondin, de la vive et du rouquier. Et poisson noble juste à côté, du Saint-Pierre, de la Baudroie, du loup, du congre et du merlan. Et on n'oublie pas, Patrick, hein, les croutons et la rouille.
Ah ben non, surtout pas. Et de l'ail, et de l'ail.
Et de l'ail. Demain à la table des bons vivants, de l'ail.
Il y en aura un petit peu, oui, il y en a toujours pas loin en général. On va cuisiner demain sans gaspiller, donc on va voir que la cuisine des restes a de beaux restes. Elle peut être même sexy. Et puis nous partagerons le plat du jour avec une bonne vivante, la réalisatrice José Dayan.
De Capitaine Marlowe. Merci beaucoup. Absolument. Laurent Mariotte. Culture Média continue. On reste avec Patrick Fiori, on a encore plein de questions.
Le problème, c'est que j'ai faim. Donc
ouais, moi aussi j'ai faim, j'avoue. On va entendre du son d'abord, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Patrick Fiori, le chanteur qui sort son nouvel album, évidemment, on sort toujours le nouveau, mais c'est le 11e, voilà ce que je voulais dire, un air de famille. Et dans la famille, ou plutôt dans les titres, il y a un duo avec Florent Pagny et un duo avec Soprano qu'on n'attendait pas là. Comment ça s'est fait votre histoire tous les deux?
Ben, on s'est rencontrés sur les Restos du Cœur, il a un accent coupé au couteau, Soprano, moi aussi un peu, donc ouais. Du coup, ben, on a parlé, on a tchatché.
Oui, mais voilà. Musicalement, c'est pas le même univers.
Ah, non,
lui, c'est plutôt musique urbaine et vous, c'est plutôt classique, voire grande comédie musicale.
Ben, c'est-à-dire que lui, on s'est aperçu quand même qu'on aimait Balavoine tous les deux, quoi. Ouais. Qu'on aimait Michel Berger, qu'on aimait Goldman, c'est-à-dire qu'un mec de l'urbain, c'est un garçon super ouvert, Sopra. Alors oui, d'accord, c'est l'urbain. Moi, je suis un petit peu plus de l'autre côté, c'est vrai, mais ce qui était intéressant, c'est de se dire, allez, on se retrouve là, 2-3 jours, chez Sopra d'ailleurs. Il me dit, viens à la maison, il me dit, on va faire des chansons. Je dis, mais attends, mais comment? Et on est arrivé, mais rien, page blanche,
ouais.
Rien. C'est-à-dire qu'on s'est regardé, on dit, on fait quoi? Et on est parti, et il y a 2 chansons qui sont nées, qui sont sur cet album-là, mais comme ça, en 4 jours, en fait.
Et comme vous mimez la guitare, je devine que c'était à la guitare.
Non, c'était même pas la guitare.
Même
c'était,
pas vous non, faites des chansons comme ça?
Non, c'était piano, un accord passé, un accord parlé, puis vraiment, c'était pas à pas. C'est magnifique.
Quoi, c'est quoi vos références musicales?
Oula, moi j'en ai plein. J'ai grandi avec Trust.
Ouais.
J'ai grandi avec AC/DC, j'ai grandi avec Pink Floyd, et puis j'ai grandi avec Alain Souchon.
Et dans les années 80
avec Cabrel. Années 80, j'écoutais beaucoup d'Inter. Moi j'ai beaucoup écouté beaucoup Cool and the Gang. Je sais pas si c'est cette époque-là. Parce que
je veux dire, moi ce qui m'a fait marrer, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est en 82. J'ai eu l'impression qu'il y avait le batteur de Jeanne-Masse ou de Wham qui venait débouler dans votre studio. Le son des années 80, la batterie, la boîte à rythme, écoutez l'intro du titre J'ai appris.
Ah oui.
J'ai traîné dans mes rêves.
Et c'est juste la batterie que je voulais qu'on entende. C'est, l'album s'appelle Un air de famille et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un air de famille avec ceci?
Ben, ah oui, bien sûr. Ben oui, évidemment. Ouais.
C'est un petit hommage.
Vous êtes très fort, hein.
Merci non, mais beaucoup. C'est Nicolas Souvent, le réalisateur, qui a trouvé.
Alors,
ça fait 2 jours que je cherche à quoi ça ressemble, d'où ça vient.
Ben évidemment, Phil
Attends,
Collins,
on peut remettre la première batterie, la batterie de Patrick.
Grave, bien. Hey, c'est gars, une battle de batteur.
Mais
Patrick Ampar-Soumir, le mec avec qui je réalise l'album, ouais. depuis 20 ans, et aussi fan de Phil Collins, voilà, il avait carrément innové. Donc, par contre, l'histoire que je raconte après, elle est intéressante parce que c'est un petit peu la cité herbelle où j'ai grandi avec 70 nationalités. Donc, au milieu des voitures, je joue au ballon et voilà quoi.
Votre enfance, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a tellement de choses à raconter avec vous.
Interrompez-moi.
Autre actualité, une 6e saison dans The Voice Kids et vous allez être aussi dans The Voice tout court.
Ben, The Voice, les 10 ans en fait, l'anniversaire, il y a un 5e siège qui se rajoute,
ouais.
Et c'est une première mondiale, ouais, comme quoi bon, des fois il y a des concepts comme ça sur lesquels on peut aménager des choses. Et donc là, ITV, donc la prod a décidé de rajouter un 5e coach et c'est moi, voilà. Ouais.
En plus de Zazie, Jennifer, Florent Pagny, Mika, vous prenez la place de personne et vous dites c'est une première mondiale parce que c'est un format The Voice. Donc si c'est bien, si c'est réussi, ils peuvent le faire dans un autre pays.
Je crois que c'est déjà prévu que dans d'autres pays ils puissent le faire.
Et puis un livre pour enfants, alors là non plus on vous attend pas là, ça s'appelle Zino déménage,
C'est illustré par Yann Tisseron. Pourquoi une histoire de déménagement ?
Ben, déménagement parce que mon père était déménageur et ma mère faisait des ménages. Et puis,
c'est
et la meilleure cliente de mon père, c'était ma mère. On nous a fait déménager 19 fois. Oui, c'est, je vous promets que c'est ça. Et donc, du coup, ben, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes repères, les odeurs des apparts, les bruits des voisins, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'accompagner les enfants. Bon, déjà, c'est quelque chose qui me passionne. L'enfance, c'est tout court, voilà, ça me passionne. Et je trouvais intéressant d'accompagner les enfants dans ces genres de petites ruptures de vie et ces changements-là pour leur dire que ce qu'ils ont connu, ce qu'ils pensent avoir perdu, non, ils vont le retrouver plus tard en grand, encore plus grand.
C'est juste cet album pour enfants ou il y en aura d'autres ?
Non, il y a une collection qui arrive. Oh, il y a une collection entière avec un dessin animé. Bon bref, voilà, il va se passer pas mal de choses.
Un dessin animé sur quelle chaîne ?
Ça, je sais pas sur quelle chaîne, mais ça sera sur Zino, surtout.
Ouais, voilà, mais vous savez qu'on est une émission média ici, moi ça m'intéresse beaucoup.
Sais. Non, mais
il est prévu pour quand le dessin animé ?
Je sais pas encore pour l'instant, mais ça vient, voilà, doucement. Là. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est drôle, mais c'est, j'ai jamais annoncé ça dans ma vie, mais ils sont en rupture de stock sur Zino.
Sur Zino. Voilà, si vous êtes déménageur, vous avez un camion, venez transporter Zino. Il y aura aussi, on peut pas tout raconter, il y aura aussi un téléfilm qui va arriver. Ça s'appelle Mauvaise Graine, oui. Téléfilm avec Michel Jonas, annoncé sur France 3. On va se quitter musique avec un air de famille, c'est votre album, le 11e, et on a été absolument ravis de vous avoir dans
Merci
ce studio
beaucoup.
Et je rappelle les dates de la tournée, ça va aller du 6 mai au 13 juin, ça se terminera par l'Olympia de Paris, vous serez à Bruxelles, à Bordeaux, à Toulouse, au Casino de Divonne, à Marseille, à Lille, à la Grande Motte, Aix-en-Provence, à Toulon et aussi dans les cathédrales. Merci d'avoir été avec nous, Patrick Fury, d'un mot.
Oui, un dernier, la prochaine fois je viens avec des pâtes aux langoustes.
Mais il y a intérêt, j'ai trop envie des pâtes aux langoustes, ça m'a trop donné faim. Nous on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média, c'est pas facile à prononcer les U et les U avec le masque. On sera avec le comédien Samuel Le Bihan pour un téléfilm très émouvant, ça s'appelle T'en fais pas, je suis là, c'est consacré à la vie quotidienne avec un enfant autiste. Et puis la pianiste franco-georgienne Katia Bounashvili pour un nouvel album, pour son nouvel album qui s'appelle Labyrinthe. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff, ça fait du bien. Je vous dis à lundi, je vous dis bon week-end.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.